Les jardinières.
Il fait froid, la terre s'endurcit, mais la motivation pour prendre soin de son potager reste vive. C'est l'heure des jardinières. Bon matin à vous qui nous écoutez et bonjour Noélie.
Bonjour Léo.
Alors, on n'est pas tout seul, hein, Noélie. Claudine Miseret est avec nous dans nos studios aujourd'hui aussi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes herboriste à la microferme biologique de La Rochette à Charmoy. Merci d'être avec nous.
Avec grand plaisir.
Bienvenue dans Les Jardinières. On parle jardinage jusqu'à 8h sur RJB, RTN et RFJ.
7h, 8h. Les jardinières.
Claudine, on arrive en plein cœur de l'automne, les nuits se rafraîchissent, le rythme au potager commence à ralentir, mais ce n'est certainement pas le moment de tout laisser en plan. Il y a encore pas mal de choses à faire avant que l'hiver ne s'installe pour de bon. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre à profit au jardin ces prochains jours ?
Alors justement, comme tu le disais, les températures se rafraîchissent et le gel peut arriver bientôt. Donc ce que je vous recommande, c'est de planter, si vous avez des vivaces, des aromatiques, les arbres, ça peut encore attendre vraiment. Au contraire, ce sera très bien le mois prochain. Mais vraiment tout ce qui est, je ne sais pas moi, lavande, menthe, etc. ou vos pieds d'aromatiques vivaces, ça leur fera du bien d'être plantés maintenant. Et puis, comme ça, elles pourront faire des racines avant le gel. Et bien sûr, c'est la grande période de la préparation du sol pour le printemps prochain. Donc, mettre du fumier, pailler avec les feuilles mortes, etc. pour que le sol se nourrisse de toutes ces bonnes matières que vous leur aurez données pendant l'hiver.
Merci Claudine. Vous restez avec nous jusqu'à 8h dans la deuxième partie de l'émission. Vous répondrez aux questions jardinage de nos auditeurs et auditrices. Vous pouvez d'ailleurs déjà nous les envoyer par téléphone au 0901 70 20 20. Vous pouvez également nous envoyer un SMS. Il faut taper le mot jardin, laisser un espace, puis votre question et votre nom au 939. Ou une troisième manière de s'y prendre, c'est par formulaire sur notre site où vous pouvez aussi joindre une photo à votre message.
7h. 8h, les jardinières.
Nous sommes toujours en compagnie de Claudine Miseret, herboriste à la microferme biologique de La Rochette à Charmoy. Bienvenue à vous dans les jardinières. Ce matin, on s'attaque à un cap décisif de la saison. Comment bien conserver ses légumes du potager pour tenir jusqu'au printemps? Sortie de terre, la première heure est cruciale. Alors Claudine, quelle est votre checklist juste après la récolte pour éviter les pertes?
Alors s'il s'agit d'une... En fait, ça dépend vraiment des légumes. Et s'il s'agit de courges, par exemple, il faut vraiment vérifier qu'elles ont encore leur pédoncule, parce qu'elles vont se conserver bien mieux avec leur pédoncule. Si c'est des légumes racines, comme, je sais pas moi, des betteraves, des carottes, etc., il faut qu'il y ait pas de terre... Enfin, qu'on laisse la terre dessus, on enlève les fans. Ça aussi, ça va leur permettre de se conserver bien plus longtemps. Donc on laisse la terre, vraiment. Et on vérifie dans tous les cas qu'il n'y ait pas de pourriture, qu'il n'y ait pas de, que ce soit pas des légumes qui soient trop grignotés, qui soient tapés, qu'il y ait des crevasses ou des gros trous. Il faut que ce soit vraiment des légumes qui soient frais, en santé, qui ne soient pas récoltés sur des pieds malades ou voilà, qui ont des feuilles, enfin, qui sont vraiment en déperdition, quoi. Et si les légumes sont endommagés, ça ne sert à rien d'essayer de les conserver parce qu'ils risquent au contraire de transmettre leur pourriture, par exemple, à d'autres légumes. Et le mieux, c'est de les manger rapidement. Et au moins, ben voilà, vous aurez mangé des bons légumes. Et pour votre conservation, vous gardez que les plus beaux, donc les top modèles du jardin.
Claudine, avant de parler des techniques de conservation, il y a un choix stratégique à faire. Qui reste au jardin et qui rentre au frais? Quels critères simples pour décider entre je laisse en terre sous protection et je stocke en intérieur?
Alors dans tous les cas, il y a deux types de légumes qu'on peut pas conserver, qui se conservent mal en fait en cave ou etc. Ça va être tout ce qui est légumes feuilles, donc avec des feuilles un peu molles comme des épinards ou des côtes de bête, ça se conserve vraiment pas très longtemps. Et puis tout ce qui est légumes annuels, par exemple tomates, piments, etc. Ben en fait ça, la même chose, de toute façon le pied il va mourir, donc ça sert à rien de vouloir le laisser en terre. De toute façon il a fini son cycle et le mieux c'est de les... La chose à faire, évidemment, c'est de les récolter, éventuellement les sécher, etc. Mais ça va être un petit peu... voilà. De toute façon, ceux-là, on va les récolter. Par contre, tout ce qui est légumes-feuilles plus durs, comme les choux, par exemple, on peut éventuellement les laisser en place, protéger. Et puis, tout ce qui est légumes-racines aussi, les poireaux, etc. Donc ça, on peut les laisser en terre. Par contre, on va essayer de les marquer pour savoir où les récolter quand il neige. Parce que quand ils sont recouverts de neige, alors c'est le cas là où j'habite, par exemple. ils peuvent être recouverts de neige pendant plusieurs semaines. Et dans ce cas-là, on ne sait pas où ils sont. Donc, on peut les laisser en terre, mais il faudra les marquer ou bien les mettre sous petit tunnel ou ce genre de choses. On va laisser en terre tout ce qui peut être laissé en terre. Sinon, on va récolter tout ce qui risque de pourrir, quoi.
Alors justement, j'allais rebondir. Pour une bonne conservation à l'automne, quel lieu il faut choisir et quel microclimat viser quand on stocke ses légumes à la maison ?
Alors de nouveau, ça dépend vraiment des légumes. Par exemple, les courges et les oignons, il leur faut un climat sec sur une étagère, pas trop froid, mais pas trop chaud non plus, donc environ 15 degrés, on va dire. Tout ce qui est pommes de terre, etc., ça va être dans le sec aussi, dans le noir, à une température relativement basse, de nouveau 10 à 15 degrés. Et tout ce qui est carottes, betteraves, gros radis, tous les légumes racines, il faudra au contraire que ce soit vraiment dans un lieu humide et sombre. Et puis choux, chicorée, légumes feuilles charnues, etc., il faudra que ce soit très frais et humide. Vous avez tout retenu, hein ?
Tout retenu, tout noté. On va parler maintenant de logistique simple. De quoi a-t-on réellement besoin pour bien faire sans se ruiner ?
Bah, concrètement, n'achetez rien et faites de la récup. Parce qu'on peut trouver des caissettes, par exemple, chez l'épicier. On peut trouver, pour marquer les rangs, on peut trouver des baguettes en faisant une petite taille. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin de se ruiner. Au contraire, prenez ce que vous avez autour de vous et ça ira très bien.
Et quelles manipulations ratent le plus souvent et compromettent la tenue des légumes, pour finir ?
Ben, vraiment, si un légume est mal manipulé, il est tapé, etc., c'est vraiment la porte d'entrée pour la pourriture. Et puis, il ne faut pas non plus il faut pas laisser les légumes comme ça, à l'air libre, trop longtemps dans votre jardin. Le mieux, c'est vraiment de les mettre à stocker le plus vite possible pour qu'ils soient vraiment en bon état quand vous les mettez stockés. Pas besoin de les laver en général si c'est par exemple patates et betteraves comme on a dit. Et puis tout ce qui est choux, chicorée, légumes feuilles charnues, là le mieux c'est de laisser les feuilles extérieures qui vont protéger le cœur, quitte à après retirer ces feuilles qui se seront endommagées. Donc il ne faut vraiment pas négliger après la récolte ce moment de tri et pouvoir les mettre rapidement à stocker.
7h, 8h. Les jardinières.
On entre dans le concret avec Claudine Miseret, herboriste à la micro-ferme biologique de La Rochette à Charmoille. Claudine, on parlait de la conservation des légumes dans les jardinières. Alors je vous pose maintenant la question, pour ceux qu'on laisse en terre, quelle épaisseur de paillis il faut viser pour traverser l'hiver sereinement ?
Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé déjà, c'est les rongeurs. Alors si vous avez un jardin à rongeurs, n'importe quel paillis, enfin de toute façon il y aura des rongeurs dans votre jardin en hiver qui vont se délecter de vos carottes et de vos navets. Donc si vous savez que vous avez beaucoup de rongeurs, ces légumes-là, il vaut mieux les récolter parce qu'il y a vraiment de grandes chances qu'ils se fassent grignoter. Et puis si vous pensez que ça joue, eh ben dans ce cas vous pouvez effectivement mettre un paillis. Ou bien laisser faire la neige si vous êtes dans une région avec beaucoup de neige, parce que ça aide à la conservation, c'est vraiment pas un problème la neige. Mais voilà, si vous avez envie de mettre un paillis, ça peut être des feuilles mortes, de la paille, enfin vraiment ce que vous trouvez. Et pour que ça protège vraiment bien, il faudrait qu'il y ait au moins 15 cm ou plus de paillis, quel qu'il soit. Et comme ça, vos légumes ils seront quand même protégés du froid, du gel, et vous pourrez les récolter à n'importe quel moment.
Et justement, quand le gel durcit le sol, quel repère simple permet de retrouver ses rangs sous la neige sans abîmer les racines ?
Alors évidemment, ces repères, il faudra les mettre avant la neige. Je le dis parce qu'en fait, on se dit que la neige arrive dans longtemps, mais tout d'un coup, ça peut arriver subitement. Donc c'est gentiment le moment de marquer vos rangs. Et normalement, vous connaissez votre jardin, donc vous n'avez pas besoin de mettre des repères très compliqués. Vraiment, un piquet au début de votre rang, un piquet à la fin de votre rang. Et vous savez qu'au milieu, y a des légumes, quoi.
Alors, voilà. Il paraît aussi qu'on peut conserver les légumes en jauge en extérieur. Alors, ça, est-ce que ça fonctionne vraiment ?
Oui, ça fonctionne vraiment bien. De nouveau, attention aux rongeurs. En fait, il faut mettre un grillage partout. En fait, vraiment faire comme un compost enterré. Là, ces espèces de gros cylindres grillagés, la même chose, mais dans le sol ou en tout cas semi-enterré, ou éventuellement avec. Une palette, enfin vraiment des cadres de palette ou n'importe quoi qui va être partiellement enterré, mais vraiment grillagé pour éviter que les rongeurs rentrent dedans. Sinon, c'est pour eux le paradis. Hein. Il y a à manger, il y a à boire, c'est fantastique. Donc vraiment, une fois que vous avez mis votre grillage, Vous mettez vos légumes et puis ils vont être protégés vraiment par la terre qui va leur permettre de rester humides et ils vont vraiment se conserver jusqu'au printemps suivant comme si vous veniez de les récolter. Ça fonctionne hyper bien. Et si vous avez un endroit comme ça chez vous, c'est vraiment une bonne façon. Il faut juste vérifier que ce soit pas un endroit trop détrempé avec une terre vraiment trop lourde, mais vraiment ça fonctionne super bien.
Et en intérieur, ça marche aussi ?
Oui, ça marche aussi vraiment bien si vous avez une cave, par exemple, ou un garage, ou n'importe quoi qui reste un petit peu humide. Et là, vous allez la même chose, mettre des cadres de palettes, par exemple, protéger de nouveau si c'est une cave avec de la terre battue, comme ça, pour que les rongeurs ne passent pas. Et en fait, remplir de sable de granulométrie moyenne, ça fonctionne a priori, en tout cas, on a remarqué que ça fonctionne mieux que le sable trop fin. Vous allez l'humidifier légèrement et vraiment, vous allez poser vos légumes dedans en couche. Et la même chose, là, ça fonctionne super bien. Vous pouvez les reprendre 6 mois après. Vous avez l'impression qu'ils viennent d'être récoltés.
Pour éviter de s'y perdre tout l'hiver, comment vous organisez l'étiquetage et la rotation des lots et dans quel ordre les consommer ?
Alors concrètement, ne vous prenez pas la tête parce que de toute façon, vous allez devoir vérifier régulièrement vos stockages, enfin tous vos légumes pour voir s'il y a tout d'un coup un fruit, un légume qui pourrit pour les enlever. Parce que si vous les laissez trop longtemps, bah, forcément que tout va pourrir. Donc vous allez de toute façon devoir faire vraiment des contrôles réguliers et en faisant ça, en fait, vous avez de toute façon une rotation, vous allez manger les légumes qui ont besoin d'être mangés et puis faut savoir que c'est pas comme les conserves où il n'y a pas de risque, en fait avec la conservation des légumes il n'y a pas de risque sanitaire majeur, donc vraiment faites au plus simple et tout ira bien.
On vous propose maintenant un petit détour par les courges, Claudine. Vous avez des recommandations particulières pour leur conservation ?
Oui, en fait, les courges, comme j'ai dit avant, il faut les garder avec pédoncule. Elles vont se conserver beaucoup plus longtemps. Et c'est pas comme justement les betteraves ou les carottes où là on va laisser la terre. Au contraire, les courges, le mieux, c'est vraiment de les nettoyer après les avoir récoltées. Donc vérifier qu'il y a plus de terre, de feuilles mortes ou je sais pas quoi dessus. Les sécher avec un torchon ou n'importe quoi. Et les conserver dans un endroit au sec, relativement aéré, hors gel évidemment. Et il ne faut pas qu'elles se touchent. Donc sur une étagère, le mieux, c'est vraiment qu'elles soient à une distance les unes des autres pour ne pas être en contact. Mais ça peut être dans la cuisine, dans le garage, dans votre chaudière, n'importe où. Et même si elles se dessèchent un peu, comme ça, vous avez l'impression qu'elles se ratatinent un peu, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, elles auront perdu un peu d'eau et elles auront gagné en goût. Donc c'est parfait.
Et concernant les racines, si elles commencent à germer, c'est quoi le geste prioritaire pour sauver ces racines et prolonger le stockage ?
Alors le geste prioritaire, on les mange, parce que concrètement, si votre légume a commencé à germer, il va continuer à germer. Vous pourrez éventuellement enlever les germes pour les garder encore un petit peu, mais la machine est lancée, entre guillemets, il a déjà commencé à utiliser des nutriments pour germer. Donc là, vraiment, allez-y, mangez-les. Voilà, faites-vous un bon petit plat.
Les jardinières.
Bienvenue à vous dans Les Jardinières, c'est jusqu'à 8h. Ce matin, on a passé en revue la conservation des légumes du potager, que faire dès la récolte ou les stocker, et quel microclimat viser pour éviter germination et pourriture. Vous retrouverez tout ça en podcast dans la matinée sur notre site. Et maintenant, c'est votre moment. Envoyez-nous vos questions jardinage.
Et que ce soit sur la conservation ou tout autre sujet du jardin, appelez-nous directement ici au 0 901 70 20 20. Vous aurez l'occasion de parler directement avec Claudine. Vous pouvez également joindre une photo. Pour cela, il faut aller sur le formulaire présent sur notre site. Et puis la troisième manière de nous joindre, c'est par SMS tout simplement. Il suffit de taper le mot « jardin » au début du message. Laissez un espace suivi de votre question et de votre nom que vous nous envoyez au 939.
Et on a une question qui nous vient de Lucie de Delémont qui nous demande « Je dois arracher mes dahlias et cannas maintenant ou je peux les laisser en terre avec un gros paillis ?»
Alors de nouveau, le problème des dahlias, c'est les souris et les rongeurs. Donc si vous savez que vous avez des souris ou tout autre rongeur dans votre jardin, en fait, elles risquent de grignoter cette racine en fait, pleine d'amidon, pleine de nutriments. Donc ça, c'est le premier risque. Et puis le deuxième risque, c'est la pourriture. Donc si vos dahlias sont en terre, mais dans un endroit qui est plutôt sec et vous savez qu'il n'y a pas de souris et de rongeurs, bah, dans ce cas, vous pouvez sans autre les laisser en terre. Et normalement, ils vont repousser l'année prochaine, tout va bien se passer. Mais si vous soupçonnez que c'est vraiment que ce soit trop humide ou bien qu'il y a des rongeurs, dans ce cas-là, effectivement, le mieux, c'est vraiment de les conserver dans un garage au frais, un peu comme vous conserveriez des patates, en fait, et puis de les replanter l'année prochaine. Voilà.
On a encore une question ici qui nous vient par SMS. J'ai des sacs de feuilles mortes. Je les mets en paillage direct au potager ou je passe par le compost. C'est une question de Marie-Anne de Saint-Imy.
Alors, c'est vrai que les feuilles mortes posent souvent beaucoup de questions pour le paillage. Concrètement, un paillage, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une couverture de sol avec quelque chose qui est plutôt sec, contrairement à un mulch, où là, c'est vraiment un paillis avec quelque chose de plutôt humide, comme du gazon qui vient d'être coupé. Et en fait, parmi les paillages, on peut trouver n'importe quoi. On peut faire un paillage avec des feuilles, on peut faire un paillage avec des branches de sapin, on peut faire un paillage avec du fumier, par exemple du fumier trépaillu, etc., etc. Et parmi tous les paillages possibles, les feuilles mortes sont les plus appropriées pour une décomposition qui va être suffisamment rapide, mais pas trop. Donc concrètement, du paillage des feuilles mortes sur vos plates-bandes en paillage, à cette période de l'année, si vous regardez dans la nature, c'est comme ça que ça se passe, hein, les feuilles tombent, elles vont au pied de l'arbre, et au printemps prochain, elles seront décomposées, elles auront vraiment été intégrées par les organismes du sol et transformées en humus. Donc vraiment, passer par la case compost ne sert à rien, ça va vous prendre du temps pour rien, et en plus, vous allez, entre guillemets, priver la faune du sol de cette protection et de ces nutriments-là pendant l'hiver, sachant que l'hiver, c'est pas du tout une saison morte hein, pour le sol, au contraire. Si vous avez un paillage suffisamment épais qui protège du gel, vraiment, les organismes du sol, ils vont continuer à travailler au ralenti, mais ils vont quand même travailler, et des fois pas du tout au ralenti, ce qui fait que vraiment, vos feuilles mortes seront décomposées au printemps quand vous aurez besoin de faire vos semis.
Patrick, voilà. merci beaucoup Claudine. On a encore Patrick de la Chaux-de-Fonds qui nous pose cette question là concernant ces géraniums de balcon. Je les rends trop frais ou je coupe court et je stocke en cave plus sombre ?
Alors les géraniums de balcon, c'est une variété de géranium qui supporte pas du tout le gel. C'est pas une plante de chez nous du tout. Hein. C'est vraiment, on les voit sur les balcons en Suisse, mais en fait c'est pas du tout suisse comme plante, ni même européen. Donc elle supporte vraiment pas le gel. Donc dans ce cas-là, effectivement, si vous êtes dans un endroit qui est vraiment exposé au gel, il faut les rentrer, sinon ils vont de toute façon geler et mourir.
Merci Claudine, on a encore une série de questions pour vous. On va vous en poser une encore avant une petite pause musicale. On a vu tout à l'heure que vous avez essayé de nous joindre. N'hésitez pas à retenter votre chance hein, au 0901 70 20 20 pour poser directement votre question à Claudine. Mais avant cela, on a une question qui nous vient de Clara de Neuchâtel. Bulbe, à propos de bulbes de tulipes et narcisses, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour planter en début novembre ? C'est sa question.
Non, je dirais que ça va. Franchement, voilà. Ça vaut la peine. Non, mais c'est vrai. Tant que ça va, voilà, ça aura le temps quand même de prendre racine, etc. Et normalement, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que l'hiver pour les bulbes, c'est soit tout va bien, au contraire, ils prennent du corps, etc. Soit il fait trop humide ou ils se font manger. Donc qu'on les plante maintenant, qu'ils soient déjà en terre, c'est un peu une gageure. Au printemps, on espère qu'ils repoussent, quoi.
Les jardinières.
On est ensemble encore jusqu'à 8h pour les jardinières. Dans cette deuxième partie d'émission, on s'intéresse à vos questions que vous nous envoyez soit par SMS au 939, par formulaire sur nos sites, ou encore, on le rappelle, vous pouvez nous appeler directement ici au 0 901 70 20 20. On a une question, Léo, qui nous est parvenue par audio, un audio.
Oui, tout à fait, je vais vous le faire écouter, ça nous vient de Lisa de Moutier.
Une question pour les jardinières, ça serait, d'une année sur l'autre, comment garder les gueules de loup, les fleurs, les gueules de loup ?
Voilà. Est-ce que vous avez une réponse à cette question, Claudine ?
Oui, alors merci Lisa pour la question. Alors les gueules de loup sont des plantes généralement annuelles. Prenons un exemple, un tournesol c'est annuel, une menthe c'est vivace. Et il y a certaines plantes qui sont bisannuelles comme les carottes par exemple. Donc les gueules de loup, par chez nous, elles sont vraiment annuelles. Des fois, si on a de la chance, elles se conservent par elles-mêmes. Le pied va survivre. Ou bien elles se ressèment. Donc elles font énormément de graines, hein, ça fait beaucoup de graines qui vont se propager autour et elles se ressèment volontiers. Mais c'est vrai qu'en général, les pieds de gueule de loup, hein, qu'on appelle aussi mufliers, ces pieds-là vont mourir et c'est normal, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est le cycle du vivant.
On reste à Moutier avec une question d'Éric et il nous pose la question suivante. Je peux tailler mes rosiers maintenant pour éviter que ça casse sous la neige ou je ne touche à rien avant mars?
Alors le mieux c'est vers Noël en fait. C'est vraiment là c'est encore trop tôt. Il peut y avoir encore des belles journées. Le rosier il va rien y comprendre. Donc le mieux c'est vraiment d'attendre que toute la sève soit redescendue. Et mars, selon où, c'est déjà même trop tard. Donc le mieux, c'est voilà, vers Noël jusqu'à fin janvier. C'est vraiment une bonne période pour tailler les rosiers et pour pas leur faire un choc trop important. Et je tiens à dire d'ailleurs que des fois, on se dit « Ah, ben, je vais pas tailler mon rosier et c'est cool, il va bien apprécier. » Mais en fait, concrètement, les tailler, ça leur permet de refaire beaucoup de fleurs et beaucoup de feuilles saines. La taille des rosiers, c'est quand même une opération qui est intéressante si on veut vraiment entretenir ces rosiers. Mais du coup, plutôt vers fin décembre, janvier.
On part au Locle maintenant avec Nadia qui nous demande à partir de quelle température je rentre mes citronniers et où les mettre dans l'appart.
Alors, c'est vrai qu'on oublie un petit peu que les plantes, la citronnier par exemple, on se dit que c'est une plante du sud, donc il faudra qu'elle soit toujours au chaud. Donc on se dit, je vais la mettre dans mon appartement et ce sera bien, elle sera contente. En vrai, même dans le sud, il y a un hivernage en fait. La température, elle baisse. Donc les citronniers, ils ont un peu cette période où en fait ils se ralentissent. C'est normal, ils auront quand même leurs feuilles. Et puis il faut pas qu'ils gèlent, mais en même temps il faut pas qu'ils soient non plus trop chauds, sinon ils peuvent pas faire leur cycle d'hivernage. Donc le mieux c'est pas forcément dans un appartement, mais ce sera dans un endroit assez frais. Donc si c'est un garage ou vraiment un endroit qui est suffisamment protégé du gel. Mais ça peut être déjà maintenant, hein, comme ça vous êtes sûr qu'il va pas prendre un coup de gel. Et enfin, ça dépend aussi du type de citronnier, parce qu'il y a des citronniers, par exemple, japonais. Donc, on connaît bien le yuzu, pour ceux qui aiment le yuzu. Les yuzu, en général, sont beaucoup plus résistants au gel. Alors, je dis beaucoup plus résistants, ça dépend vraiment du type de citronnier. Hein. Laissez-le pas jusqu'à moins 20 dans votre jardin, mais je veux dire, il y en a certains qui résistent sans autre jusqu'à moins 10 si ce n'est pas un gel prolongé. Donc, renseignez-vous sur le type de citronnier, la variété, et puis en général, sur les sites internet des revendeurs, il y a ce genre d'informations. Et ce sera le cas pour n'importe quel fruit un petit peu exotique comme ça, que ce soit des kiwis, des kakis, etc. Donc en général, ils informent quelles sont les températures inférieures limites pour la variété que vous avez choisie.
Merci Claudine. On a encore une dernière question pour vous. C'est une question technique hein, qui nous vient de Jérôme de Tavannes. Jérôme démonte son arrosage goutte à goutte et il demande comment purger correctement pour éviter que ça gèle.
S'il le démonte, dans le sens... je ne suis pas sûre de comprendre cette question, mais...
On n'a pas plus d'informations.
S'il le démonte, dans tous les cas, les tuyaux ils seront vidés. Hein, les tuyaux seront stockés quelque part, un peu protégés. Donc, il n'y aura plus d'eau à l'intérieur. Et en général... Ça devrait marcher s'il n'utilise pas l'arrosage pendant l'hiver, il n'y a pas de problème. C'est juste que effectivement, de vider les tuyaux permet de préserver le plastique, en fait, le caoutchouc des tuyaux.
Les jardinières.
Ce matin, dans Les Jardinières, on a passé au crible à la conservation des légumes, les gestes à privilégier juste après la récolte, où les stocker, quel microclimat viser pour éviter germination et pourriture. Tous les conseils de Claudine Miseret seront en podcast dans la matinée sur notre site. Claudine, avant de nous quitter, si on s'y met ce week-end, quelles sont les trois priorités à cocher début novembre pour garder ces légumes au top jusqu'au printemps?
Récolter les courges, c'est le moment. Il faut pas les laisser plus longtemps. Décidez ce que vous laissez en terre et si vous laissez en terre, marquez quand même vos rangs. Et préparez votre matériel, comme ça vous ne serez pas pris de court quand ce sera le moment de conserver. Voilà.
Merci Claudine, nous rappelle encore que vous êtes herboriste à la microferme biologique de La Rochette à Charmoilles. À bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Merci Claudine. La semaine prochaine, on recevra Rebecca Luchinger et Jordi Gonzalez du Jardin des Centaures à Neuchâtel. À la semaine prochaine Noélie.
À samedi prochain Léo et bon week-end à tout le monde.
7h, 8h, les jardinières.